Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC.
RMC.
On va rester sur la progression par rapport à ce qu'ils ont fait dernièrement en championnat. Mais je pense qu'il faut être réaliste.
J'aurais dit, hein, regardez les stats. À un moment donné, le hasard, ça arrive jamais par hasard.
Quand je dis que l'entraîneur et le mari, c'est le dernier à savoir la chose, c'est vrai. Si elle est à les cornes, comment ça fait? Si elle est coucou, c'est le dernier à savoir la chose.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'after, after-foot, l'after. Premier podcast de France, espace de liberté pour tous les supporters acteurs du monde du foot. On vous attend au 32-16 jusqu'à minuit et demi. Ensuite, ce sera la libre antenne de l'after qui suivra jusqu'à 1h30. Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous.
La Roumanie et la Slovaquie font un partout. Belgique-Ukraine 0-0. On va revenir sur ces matchs. On va parler de la Géorgie qui crée l'exploit ce soir et bat le Portugal 2-0. Bravo Willy Sagnol. La Turquie bat la République tchèque 2-1. Nous avons donc le tableau complet des huitièmes de finale que je vais vous donner dans quelques instants. Le 32-16 est ouvert, direct studio également. On parlera de l'audition également de Vincent Labrune au Sénat aujourd'hui, de l'équipe de France où il commence à y avoir quelques tensions. Les remplaçants sont moyennement contents, Deschamps ne les calcule pas, on se plaint de l'intensité des séances d'entraînement. On vous raconte ça tout à l'heure après minuit bien sûr. Et puis je vous rappelle qu'on est à 52 jours de la reprise des Ligue 1 et que le foot français n'a toujours pas de contrat de télé, faillite virtuelle toujours en cours. On attend des news, il n'y en a pas eu aujourd'hui.
Ah bah il y a eu l'audition du patron.
Ah bah du coup,
forme de news, hein.
Oui. Enfin bon, ils n'ont rien signé, tu vois.
Il a dit qu'il travaillait.
Bon, il a dit d'autres trucs.
Oui.
Bon, la Ligue 2 a été signée hier. Donc oui. La Ligue 2 n'est plus en faillite. Déjà ça. Le Red Star est sauvé, oui.
On pourra voir les matchs du Red Star sur Beansport.
On va en parler de tout ça.
Bon, le tableau des 16e, maintenant qu'on connaît tous les résultats. Alors, je vais démarrer par la moitié de la France. Donc, le tableau des 8e, la France affrontera donc la Belgique. La France affrontera, si elle passe, le vainqueur de Portugal-Slovaquie. Voilà.
Mm-hmm. Non, Slovénie.
Slovénie, tu as raison. Excuse-moi, Walid, tu as raison. Slovénie, Portugal-Slovénie. Si la France passe. Dans l'autre quart de tableau, toujours celui de la France, qui pourrait être l'adversaire de la France en demi-finale. L'Espagne affrontera la Géorgie. L'Allemagne affrontera le Danemark.
C'est là que c'est costaud quand même.
Là, c'est la grosse partie de
tableau. Le haut du quart, ça veut dire que tu peux avoir quand même un quart.
Ouais.
Et très probablement, au vu des adversaires,
oui. Portugal,
Espagne-Allemagne.
Espagne-Allemagne et Portugal, France ou Belgique.
Mais pour la France, tu pourrais avoir Belgique, Portugal, Allemagne ou Espagne pour aller en finale.
Ben voilà.
C'est Roland où tu prends Nadal, Djokovic et Federer.
Il fallait gagner hier. Oui. C'est comme ça.
Ouais.
Et puis dans l'autre moitié de tableau, la Roumanie affrontera les Pays-Bas. L'Autriche affrontera la Turquie. Les vainqueurs de ces deux matchs se rencontreront en quart de finale. Donc les Pays-Bas pourraient retrouver l'Autriche. C'est un peu un effet pervers de la formule là, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis dernier quart de tableau, l'Angleterre jouera la Slovaquie et la Suisse jouera l'Italie. Ça, on le savait déjà.
Partie de tableau assez abordable pour beaucoup d'équipes.
Les Pays-Bas, c'est assez drôle parce que finalement,
ils font troisième et
terminent troisième. Ils ont quand même la partie de tableau censément la plus facile.
Bon, dans cette phase de poule, il fallait terminer premier ou troisième pour la France. Pas deux.
Ouais, oui. T'aurais eu France, ouais, c'est vrai.
C'est bizarre ces phases de poule avec ces troisième places.
Bah c'est
des choses un peu étonnantes.
C'est la règle, quoi, qui
et puis, l'Angleterre, qui a fait une phase de poule pas loin d'être minable, se retrouve dans une partie de tableau avec pas mal de perspectives intéressantes.
Dans cette partie de tableau-là, tu as les Pays-Bas qui n'ont pas été en ballon loin de là, qui peuvent se dire « Tiens, on a un coup à jouer
ouais. ».
T'as l'Angleterre qui peut se dire la même chose. T'as l'Italie qui a pas montré grand-chose, mais peut se dire « Bon, boosté par la fin de match, si on retrouve un peu de confiance, il y a peut-être aussi quelque chose. »
La Suisse.
Écoute, moi, c'est l'Autriche. Depuis le début de la compète, je dis que cette équipe a beaucoup de qualité. Et s'il doit y avoir un invité surprise, je miserai là-dessus, sur l'Autriche.
Je suis d'accord.
Parce que s'il retrouve les Pays-Bas en quart, vu ce qu'ils auront fait la dernière fois, je dis pas que forcément tu le refais, hein. Mais
après, Autriche-Turquie, ça va être intéressant aussi, parce que quand tu vois le contingent turc dans les stades, là, encore une fois, la fête, elle est extraordinaire.
Oui, ça s'est fini de façon un peu chaotique, d'ailleurs, le match Turquie-République tchèque.
Tu te dis que ça peut être une force pour les Turcs, quoi.
Exactement. Bon, on va se régaler avec ces matchs-là.
Non, mais c'est bien. Le bracket est là. Vivement les huitièmes de finale.
Oui,
c'est
parce assez, que là, c'est ce assez soir, excitant. C'était sympa, mais on a quand même eu, il faut le dire, aujourd'hui, c'était triste. Hier, c'était triste.
Aujourd'hui, c'était mieux qu'hier.
À 18h, ce soir,
à 18h, franchement,
c'était 18h,
il fallait pas avoir sommeil. Hein. Et il se trouve que, après notre courte nuit, retour de Bretagne, 18h, ça n'a pas été un bon horaire.
L'enchaînement 21h hier soir et 18h aujourd'hui, il fallait être très costaud.
Je dois te dire que le début de la deuxième période, faut pas me demander ce qui s'est passé.
Le match de la Roumanie, vous êtes dur.
Oui, d'accord.
Enfin, Belgique, la Géorgie, c'est quand même une grosse sensation.
J'étais plus devant Belgique-Ukraine. Ouais. Je t'avoue que retour de vestiaire 19h, 19h20, j'ai tout lâché.
Non, ce soir, par contre, c'était mieux.
Ah oui, c'était mieux. La pire journée, c'était hier, entre la France et l'Angleterre.
Oui. Heureusement qu'il y avait le Pays-Bas Autriche.
Bah oui. Bon, les gars. Allons-y sur le Portugal-Géorgie, parce que c'est quand même la sensation du soir.
Après la Belgique, j'allais dire, c'est une équipe, j'ai l'impression, c'est une équipe de dépressifs.
On va faire ça par...
Ils sont en dépression, à l'image de De Bruyne, ils sont en dépression.
Oui, on va en parler tout à l'heure. Effectivement, il y a grosse crise en Belgique, on aura même un journaliste belge avec nous. On va accueillir dans quelques secondes Vincent, qui est supporter portugais. Enfin là... Pardon, Willy Sagnol qui a fait partie de l'after. Il a fait quelques afters avec lui il y a quelques
quand
temps.
Quand tu passes dans l'after, il se passe toujours quelque chose. Tu peux pas dire que c'est sans conséquence.
On l'a sublimé peut-être.
C'est sans conséquence. Tu quittes l'after.
Vous aimez trop
ça. T'as une carrière dans les médias qui t'est ouverte partout. Voilà. C'est un tapis rouge partout.
Tu mesures pas encore tout ça. Tu verras bientôt.
T'es venu là, t'as été.
Non, les gars, on va pas parler de l'after ce soir sur Sagnol.
Bah, Willy Sagnol, il passe ici, regarde ce qu'il est devenu.
Oui, d'accord. Enfin,
on parle de Damien Perrinet. On parle de Simone Rovera. Ouais. On parle de toutes ses carrières.
David Bay.
David Bay, bien sûr.
Il lui a fallu deux fois. En deux fois.
Lui-même te l'a dit.
Non, mais Sagnol, je pense pas à l'after quand je pense à Sagnol ce soir, en fait, Daniel, excuse-moi. Non,
mais c'est un peu comme quand tu rentres dans un temple. La lumière. Tu sais, la lumière du Seigneur arrive sur toi. Et
ah ouais, carrément.
Voilà, c'est ça.
Non mais c'est le gros coup de la soirée la Géorgie, sincèrement. Cette équipe qui a souffert pendant les trois matchs avec un gardien Mamardashvili qui est énorme, qui est pour moi avec
le meilleur gardien de l'Euro
ouais. Avec Donnarumma un petit peu en dessous, mais il a encore fait des arrêts monstrueux aujourd'hui. Déjà contre la République tchèque, il avait été énorme. Et puis notre petit Miko Tadze devant, qui est encore très très efficace. Gvara qui avait été décevant sur les deux premiers matchs, qui a fait un match extraordinaire. Dukeur, ils sont dans le dépassement de fonction perpétuelle. Ils ont subi, hein, parce que tu t'appelles la Géorgie et que tu joues quand même le Portugal. Mais les voir passer comme ça, on parle souvent de l'Euro à 24, des inconvénients, des avantages. C'est vrai que le niveau, il reste fluctuant. Mais quand tu vois leur joie à la fin du match, c'est leur premier Euro. Ça reste quand même des très belles histoires et c'est magnifique.
Après, les belles aventures, sans rien retirer à la Géorgie, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, les belles histoires sont également favorisées par la formule. Parce que tu te retrouves avec une équipe du Portugal qui n'a rien à jouer pratiquement, et je dis toujours que dans le sport, quand la défaite n'est pas rédhibitoire pour toi et qu'elle ne t'élimine pas, dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est pour moi bloquant pour l'analyse de la performance de celui qui est dans cette position-là. Quand la défaite ne t'atteint pas, tu ne peux pas donner le maximum de toi-même. Et je pense que les Portugais, d'abord, ils avaient fait tourner, et deux, déjà qualifiés.
Après, il fallait les taper hein, quand même, le Portugal ce soir.
C'est pour ça que je vais arriver à la Géorgie. Je ne retire rien. Les belles histoires sont également favorisées par le contexte.
Sur la
proposé.
Formule à 24, c'est intéressant ce que tu dis, mais à 16, il y avait aussi des équipes qualifiées après deux matchs qui jouaient un match qui servait à rien ou au moins uniquement la première place.
Oui, non, mais sur l'autre formule, je dis.
Oui,
d'accord. Te permettent. Et puis là, quand t'es troisième, tu passes. Là, ils sont troisième.
Oui.
À la Géorgie. On est heureux. C'est une magnifique histoire. Et c'est pour ça que je dis que cette formule à 24 avec les meilleurs troisièmes, elle a quelque chose qui au fond peut être très séduisant, quoi, parce que ça te donne l'opportunité de découvrir des joueurs, c'est magnifique.
Il y a des avantages, des inconvénients.
Bon. Je sais pas si vous y avez pensé pendant le match, un peu moins vers la fin, mais on était au milieu du match, j'ai repensé à Portugal-Maroc de la Coupe du Monde, parce que la Géorgie s'était plus ou moins disposée de la même façon. Ils ont marqué vite.
Avec un très beau but en transition.
Ensuite, ils ont tenu. Il y a des très beaux joueurs dans la sélection du Maroc. Il y en a également dans cette sélection-là. Et tactiquement, c'était grosso modo la même proposition. Et Miko Tadze et Vara sont de très bons joueurs, tous les deux. Et ils ont plus ou moins fait la même chose. Peut-être même que la Géorgie, à un moment dans le match, a même proposé un peu plus de jeu que le Maroc en avait proposé contre le Portugal.
Après,
à la Coupe du Monde.
C'était deux contextes différents.
Mais c'est des choses qui se ressemblent.
Quart de finale de Coupe du Monde.
Et où j'ai vu un Portugal, de la même façon, emprunter, avoir beaucoup de mal. Bon, on va dire, beaucoup d'équipes ont du mal contre les blocs bas, comme ça, à contourner, à pas mettre de rythme, à pas accélérer. Mais les Portugais ont toujours beaucoup de mal quand c'est comme ça.
Ça tricote, mais tu sens qu'il y a un manque d'impact. Et après, tu tombes sur aussi un très, très bon gardien ce soir. Ah bah, et comme tu l'as dit, t'avais le sentiment que la victoire n'était pas impérative pour le Portugal avec une grosse, grosse revue d'effectifs. Et quand tu vois certaines individualités ce soir, Antonio Silva, notamment, qui est un jeune joueur portugais, qu'on avait découvert un petit peu contre le PSG il y a 2 ans où il avait été très, très bon. Mais cette année, il passe complètement à côté. Il y a eu, en fait, l'assemblage de deux objectifs bien, bien différents. Et la Géorgie a très, très bien joué le coup. Il y a un milieu de terrain, la Kochorashvili, qui joue en Espagne, qui fait lui aussi un très, très bel rôle numéro 6. Voilà, il y a un truc assez cohérent, une ligne directrice, et puis tu as les deux de devant là, Gvara et Mikotadze, qui à chaque fois qu'ils ont des situations avec un peu d'espace, ils te font la différence. Donc bravo à la Géorgie. Et puis oui, le match contre l'Espagne va être intéressant parce que tu parlais du Maroc Portugal.
C'est ce que j'allais enchaîner là-dessus en disant ça ressemble à ça. Ils sont capables de les emmerder de la même façon. L'Espagne, on l'a assez dit ces derniers jours, a évolué notamment grâce à ces deux joueurs de percussion sur les côtés qui permettront probablement de percer plus cette défense. Mais oui, et la Géorgie, elle a également montré quelque chose qu'on n'a pas vu dans les derniers matchs où on s'est un peu ennuyé. Et c'est quand même très agréable de voir ça quand tu regardes un match et que t'es neutre comme ça. C'est la générosité, la détermination, comme tu appelles ça, le dépassement de fonction. Mais bon, voilà, c'est aussi la base du sport de haut niveau, quoi. Tu te défenses sur le terrain, tu donnes tout. T'as l'impression que les joueurs sont à bloc entre eux, à bloc avec le coach. Il y a une unité. Quand tu fais la différence avec ce que tu vois de la Belgique, de l'Angleterre, parfois même de la France, tu dis, bon, à un moment, qu'est-ce que tu veux faire sur le terrain? De toute façon, c'est simple, hein, y a un élément qui trompe pas. Tu regardes à la fin les kilomètres parcourus. Après, tu analyses la tactique, il y a des joueurs de talent, il y a des joueurs capables de frapper, de dribbler, de faire des bonnes passes et tout. Évidemment, tout ça, c'est
encore... Et est-ce que aussi, il y a
déjà
pas une fraîcheur
base,
physique?
Il y a une base quand même.
Il y a une fraîcheur physique peut-être chez ces joueurs que tu n'as pas sur.
Ah, ils jouent tous des championnats.
Oui, mais tu vois, par exemple, Mikotadze, les 6 premiers mois, ils jouent pas à l'Ajax. T'as des joueurs quand même qui sont pas dans les plus grands clubs tu vois, quand tu vois Bellingham
il est évident que dans ces tournois, le côté athlétique, la fraîcheur physique, ça compte beaucoup. Mais quand tu vois les Anglais, c'est l'impression qu'ils te donnent, c'est ils sont fatigués ils veulent même pas courir, ils veulent pas se défoncer.
Pas que, mais je vois quelques. Et je parle pas que de l'Angleterre, mais chez les gros notamment, il y a 2-3 signaux chez certaines stars qui m'inquiètent un petit peu moi. Mais après, ça c'est un autre débat. Mais pour revenir sur le Portugal, parce qu'il faut parler
Allons-y. Maintenant, on a dit beaucoup de bien de la Géorgie. On aura peut-être des réactions dans la soirée.
Le Portugal, globalement, fait une phase de poule très correcte avec ses 6 points avant ce match-là, qui restera quand même anecdotique parce que tu as fait une grosse revue d'effectifs et hormis Ronaldo et peut-être Dalot sur le premier match et le gardien, ça a fait énormément tourner. Mais moi, le Portugal, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que j'ai peut-être choqué, hein, mais que leur phase de poule, elle est un peu surcotée.
J'ai dit ça hier. Tout le monde m'a dit, ils ont fait 2 matchs. J'ai dit le premier match, j'étais pas content. Ouais. Le deuxième, m'a plu.
Oui, mais le deuxième, il est bien. Mais je le trouve surcoté, le deuxième. Parce que t'as un deuxième but turc qui a 1-0. Les Turcs se mettent un CSC tout seul. Et je trouve qu'ils ont quand même concédé. Donc ils sont là.
Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a tellement de qualité dans cette équipe.
Exactement.
Que j'étais toujours en train de dire
venir.
Cette qualité va faire la différence. Mais eux, on est typiquement dans le fameux cas de figure dont on parle très souvent. Ou de la technique, des stars à tous les postes, mais attention, il leur manque les fameux 2 joueurs que l'Espagne a.
Ouais, et surtout,
ils ont du mal,
changement de rythme.
Et en plus, avec Cristiano qui monopolise le poste devant,
Moi, même s'il est mieux, Ronaldo, parce que moi, en 2022, j'avais
beaucoup critiqué. En termes de percussion, ils ont du mal, les Portugais. Il leur manque ces joueurs-là.
Mais un Leao, normalement, devrait être ce Nico Williams. Et il le fait, il le fait très peu.
Leao, il faut qu'il ait l'espace.
Exactement,
parce que quand il est phase arrêtée avec bloc bas, il avance pas.
Il l'avait un peu.
Et il dribble pas du tout comme Lamine Yamal et comme Nico Williams. Il a beaucoup plus de mal sur en phase arrêtée.
Il l'avait fait un peu contre la Turquie, mais je trouve quand même que, faut rappeler qu'ils sont menés 1-0 contre la République tchèque, qu'ils marquent un CSC sur ce match-là. Enfin, que la République tchèque concède un CSC, tu marques à la 93e minute, et le match contre la Turquie, moi j'ai trouvé, oui, sur attaque rapide, ils ont fait la différence, t'as eu une certaine efficacité, tu mènes 3-0 à la 60e minute, mais pour ceux qui ont véritablement regardé le match, et si on gratouille, moi je trouve que c'est pas dingue non plus par rapport au réservoir que t'as, par rapport aux joueurs que t'as.
Le sentiment de tu peux mieux faire, il est là.
Alors peut-être qu'ils iront au bout, hein, parce qu'ils ont les joueurs pour, et que là ils ont Slovénie, France, Allemagne, Espagne, donc ça va être quand même, ça va pas être simple pour eux, mais moi, leur phase de poule, je suis pas totalement satisfait malgré le fait qu'ils soient premiers de cette poule.
Et dans ma liste, d'ailleurs, quelqu'un.
Après, c'est le cas pour beaucoup d'équipes.
Un auditeur très sympa m'a fait la liste, tu sais, les fameux joueurs de côté des 10 dernières années, là.
Oui.
On en a encore vu un là, hein, Jean-Félix, 100 millions. Voilà, on a acheté.
Après, je sais pas, toi, Jean-Félix, tu le mets joueur de côté?
Bah, quand il arrive, oui, quand on le découvre,
il est plus 10 à Benfica. Il est, tu vois, il est 9,5. Je le mets 9,5, moi, Jean-Félix.
Il arrive dans sa catégorie, il entre dans la catégorie des mecs qui vont jouer dans un 4-3-3 en haut à gauche ou en haut à droite. C'est là qu'il a tout le temps été placé, en tout cas, la plupart du temps. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est probablement pas là qu'il est le meilleur. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'il est le meilleur.
Pour moi, c'est un 9,5.
Et jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est très difficile de jouer avec lui.
C'est comme ça qu'il gagne le titre.
Tous ces joueurs-là, toute ma liste, sont des mecs qui posent problème au final et qui sont très durs à faire jouer.
Ouais.
Sauf quand ils sont en jambes, mais après, au début, et qui sont capables de faire des diffs, des frappes. Tu te rends compte l'argent qui est mis sur ces joueurs-là?
Ouais, mais ils marchent à la dynamique, ces ailiers. Et après, moi, mettre des milieux de terrain sur les côtés.
Je vais te retrouver ma liste.
Milieux de terrain sur les côtés. Quand tu vois les matchs de l'Espagne, tu te dis que les ailiers dans le football moderne, c'est quand même très très important. Alors ouais, ils font mal à la tête. Tu vois, par exemple, Doku, qui a fait un super match contre la Roumanie, là, aujourd'hui, il m'a fait mal à la tête. Mais ça reste des mecs déstabilisateurs et qui permettent quand même d'avoir sur attaque placée des différences, parce que quand tu vois certains qui se regardent, c'est compliqué. Hein.
Elle est longue, la liste. Vas-y. C'est un bon, tu vois. Donc ils sont pas tous au même niveau, hein, mais c'est des gars qui à un moment ont une hype et des gars qui ont été cotés et qu'on a voulu dans les clubs. Hein. Donc c'est pas ordre alphabétique, hein, c'est pas que je veux commencer par lui. Donc Alan Saint-Maximin, Guiri, Ansu Fati, Anthony Martial, Anthony.
On rappelle le concept pour ceux qui n'ont pas tout suivi.
Les joueurs à un moment sur qui on a mis beaucoup d'argent et qui sont les attaquants cotés, qui depuis 10 ans dans le foot sont
sur
les joueurs
recherchés. Sur le côté
recherchés.
Ou côté en termes de prix?
Non, c'est attaquant de côté, ouais, pas les neufs. Okay. Dans la catégorie 7-11, on faisait les chapeaux, tu vois.
Martial est un peu plus axial pour moi. Mais oui, au début.
Martial, quand il arrive, on le prend à Manchester, c'est quand on met les 80 millions sur lui, c'est pour qu'il aille dans un 4-3-3 sur un côté.
C'est vrai.
En fait, après, le fait qu'il pose problème ou qu'on se demande réellement où, ça, c'est encore autre chose. Mais au début, c'est un attaquant et c'est pas un neuf. Mecs-là ont été recherchés. Donc après, j'ai encore Danjuma, Pulisic.
Oui.
Coutinho, David Neres, Dembélé, Diogo Jota,
Plus 9 pour moi.
Berardi, il y avait Draxler, bien sûr, il y avait Bernardeschi, Chiesa, Felipe Anderson, Ferran Torres, Thauvin, Martinelli.
Bon, le Portugal, les gars, après, parce que sinon ta liste, elle peut être très longue là.
Elle est très longue, mais je t'assure que c'est que des mecs qui ont été hyper cotés et qui ont fait des carrières très bizarres.
Décevant, ouais.
Et là, il y a encore Grealish, t'as encore Ressé.
Après, Grealish et Ressé.
Dans un instant, Vincent, au 32-16 supporters.
Ressé, c'est vraiment très, très décevant.
Beaucoup de choses à dire sur Grealish, Portugal. Dans quelques instants, on va passer à la Belgique et à l'équipe de France.
Il a réussi là-bas. Oui. La carrière, regarde, Grealish, c'est déjà fini.
Oui. À tout de suite dans l'after.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, l'afterfoot, intégral Euro.
Gilbert Bribois.
23h19, Walid Acharchour est là, Daniel Riolo est là. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit 30. Ensuite, ce sera la libre antenne comme tous les soirs de l'Euro. Tiens, d'ailleurs, laissez-moi vous dire que hier soir, nous étions à Fougères, oui. Bien sûr, et on s'est régalé. Lundi prochain, nouvelle destination.
Pour la Belgique ?
Ah oui, c'est tombé aujourd'hui.
Eh oui, pour le match de la Belgique.
Donc
on continue notre tournée des clubs qui ont révélé nos internationaux français. Lundi prochain, nous serons dans la région bordelaise, à Artigues. Le club d'Aurélien. Exactement.
Martigues, j'ai vu aujourd'hui qui est.
D'Aurélien Tchouaméni.
Martigues, j'ai vu qu'aujourd'hui, ils allaient jouer leur match de Ligue 2 au Vélodrome.
Oh.
Ouais.
Ça m'a totalement échappé, cette info.
Ah, si, j'ai vu l'info.
Ah bon.
Ah si ?
Ça me paraît pas possible.
Ah bah.
Ils vont faire la saison de Ligue 2 au Vélodrome.
Ouais, toute la saison.
Marseille va prêter le stade.
Ouais, j'ai vu ça.
Donc ça veut dire que toutes les semaines, il y aura un match au Vélodrome.
Ouais, oui, j'ai vu ça.
Ça paraît pas possible.
D'accord, moi j'ai vu.
Bah écoute, pourquoi pas.
Vérifier, mais
ça m'étonnerait, franchement.
Après, est-ce que ça sonnera pas un peu creux ? Bon, je sais pas.
Ah, mais c'est pas Koundé, c'est Tchouaméni.
Oui.
Koundé, il est de Bordeaux aussi.
Oui, mais pas du même, pas du même endroit.
Ah, on n'a pas fait d'une pierre deux coups.
Après, on n'a rien contre Jules Koundé, hein, bien au contraire.
Bien sûr.
On peut inviter aussi ses formateurs, les gens de son club, il n'y a pas de problème. On vous donnera plus d'infos dans la semaine. Si vous voulez venir assister à l'after, ce sera évidemment possible. Et puis, il y aura un écran géant pour voir le match. On l'offre à la France et la Belgique. Vincent est là, supporter portugais. Salut Vincent.
Bonsoir à tous.
Bon.
On démarre, salut Vincent.
On démarre par le cas Cristiano Ronaldo ou par une analyse générale ?
Analyse générale, s'il te plaît.
Très bien. Bon, je te sens contrarié. Qu'est-ce que tu veux dire alors ce soir ?
Moi, je voulais juste dire que on a vu une équipe qui jouait avec le cœur et une équipe qui jouait avec la peur. Je m'explique. Une qui voulait aller se qualifier en 8e de finale pour la première fois et une où les joueurs avaient peur pas de perdre le match ou quoi que ce soit, mais ils avaient peur de faire quelque chose de mal et de ne plus jouer en sélection. Et ça a été le cas. Et en fait, ils n'ont rien tenté. Ils ont fait des choses qui étaient inutiles.
Tu penses à qui ?
Je pense à Antonio Silva, le pauvre, même si pour moi, sur le deuxième, il n'y a pas pénalty.
Moi aussi.
Bon, après, il y avait plus pénalty sur Cristiano Ronaldo quand il tire le maillot que cette faute-là. Mais pour moi, ce n'est encore que mon avis.
Tu veux dire une sorte de fragilité psychologique générale, en fait ? C'est ce que tu veux dire ?
Exactement. Si on parle.
Parce que bon, les qualités de footballeur, ils les ont. Je veux dire, c'est pas.
Oui, bien sûr.
Même si il a quand même pas mal fait tourner aujourd'hui, hein, le coach. Hein, faut quand même rappeler
ouais,
que.
Mais faut pas se foutre de nous quand même. On a quand même des joueurs qui sont quand même de classe mondiale. Et
aujourd'hui, t'as une belle équipe, malgré le turnover, t'as des très bons joueurs. Hein.
Exactement, c'est comme l'équipe.
Le seul qui
ne
tourne pas, c'est Cristiano, de toute façon.
Je pense qu'il n'était pas fâché de sortir, il était fâché du résultat et du fait qu'en fait, ce soit une équipe qui était triste à avoir joué. En fait, moi, je me suis fait chier devant le match. Hein. C'était pas.
Tu t'es fait chier parce que tu supportes le Portugal, parce que nous qui regardions ce que faisait la Géorgie, c'était un bon match.
Alors attention, je me suis fait chier en regardant le Portugal jouer, je me suis pas fait chier en regardant la Géorgie jouer.
J'ai compris.
Bon, après, le Portugal finit premier de la poule, tu peux très bien considérer, c'est un peu leur France-Tunisie, tu vois, au Portugal peut-être.
Tout à l'heure, il y avait la comparaison avec le match contre le Maroc, et je suis complètement d'accord, sauf que le Maroc, ils avaient mis le bus. Et là, ils n'ont pas mis vraiment le bus, parce qu'ils ont quand même créé beaucoup plus de jeux. Dans le milieu de terrain, c'était beaucoup plus intéressant que le match qu'on a vu en 2022 contre le Maroc. Et on a vu que contre le Maroc, le Portugal a mis beaucoup plus en danger l'équipe marocaine que là, ce soir, l'équipe de la Géorgie.
Non, mais t'insistes sur un point qui est important, c'est l'aspect mental. Parce que moi, c'est... On parle de jeu, on parle de joueurs qui répondent pas tout le temps présents dans les grosses échéances avec le Portugal. Donc c'est un mix de tout qui me fait dire que il y a un point d'interrogation pour moi sur la phase finale des Portugais. Parce que c'est vrai que depuis 2016, c'est une équipe, c'est pas une équipe de beaux joueurs. Il y a des beaux joueurs, mais c'est une équipe de tontons. C'est quelque chose de très très solide. C'est Fonte et Pepe derrière. Au milieu de terrain, c'est Adrien Silva. Il y a les revanchards devant, Quaresma, Nani, qui entourent Ronaldo. Là, on a une équipe de beaux joueurs. et même de très bons joueurs en Europe. Mais quand on regarde les derniers résultats, quand tu vois que tu te fais sortir par le Maroc en quart de finale, déception. Quand tu vois qu'en 2021 contre la Belgique, t'es meilleur que la Belgique en huitième de finale, tu te fais avoir sur un but belge et derrière il ferme et t'es dans l'incapacité de retourner le match. Tu penses aussi en 2018 à l'Uruguay, le match contre l'Uruguay avec la très grosse volée de Cavani. C'est-à-dire que pour passer ce cap-là, les Portugais, pour être fiable le jour J, moi j'ai toujours, et c'est intéressant que tu parles de l'aspect mental, parce que si même les remplaçants sur un troisième match contre la Géorgie, bah tu le ressens ça devant ta télé, qu'est-ce que ça va être contre la France en quart de finale ou contre l'Allemagne ou contre l'Espagne? Ça c'est un doute quand même.
Parce que là je suis pas d'accord avec toi. Tu me dis ça depuis quand il y avait Fernando Santos, etc. Par contre, quand tu regardes les phases de qualification du Portugal,
oui,
Portugal, meilleure défense de buts encaissés.
Les phases de qualif, tu joues pas les mêmes adversaires, c'est pas les mêmes contextes, ça n'a rien à voir. C'est pas un tournoi, le jeu de tournoi, c'est pas la même histoire.
Mais bien sûr, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais on revient quand même sur ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même emmagasiné une certaine confiance depuis que Roberto Martinez il est là. Et que là, t'as trois joueurs titulaires depuis le début du tournoi qui sont présents sur le terrain. Le reste, c'est, comme on les appelle, entre guillemets, sans être méchant, des coiffeurs. Et ben, tu vois que, et ben, ça manque de rythme, ça manque de confiance, ça manque de mental, ça manque d'un tout petit peu de fantaisie. Et quand tu regardes le match, et ben, du côté géorgien, tu te dis, ouais, c'est fantastique, Niko Tadze, Gvara, ils ont fait des matchs de folie. Et à côté, tu te dis, le Portugal, ils étaient inexistants.
Non, mais t'as raison d'insister sur la dynamique de qualification. Après, moi, je te dis que, avec tout le respect que j'ai pour le vivier portugais, pour ce que ça doit être sur le terrain, c'est pas la phase de poule contre Liechtenstein, Luxembourg, contre la Bosnie-Herzégovine et l'Islande, où ça va être le juge de paix.
C'est pas là où t'as un match référence. Voilà. Le problème pour le Portugal, c'est le gros match référence en compétition internationale.
Pour l'instant, je ne l'ai pas depuis très longtemps quand même. Et ça, pour moi, ça reste quand même un point d'interrogation sur le fait, parce que l'objectif du Portugal, c'est quand même d'aller très très loin dans cette compétition.
Comme à la dernière Coupe du Monde, où l'objectif n'était certainement pas... Moi, je me souviens, quand le Maroc sort l'Espagne et qu'on sait que le Maroc va jouer le Portugal, qu'est-ce qu'on se dit? Ça va, le Portugal, ils ont vu comme l'Espagne. C'est fait avoir par le Maroc. Eux, ça va pas passer. Et là où on attendait l'Espagne qui devait en coller deux ou trois au Maroc, c'est le Portugal qui va le faire. Résultat, on s'est tous plantés. Le Maroc a super bien joué le coup et a endormi.
Surtout après le 6-1 contre la Suisse en
8e. Ils ont même beaucoup mieux joué le coup, les Marocains, contre le Portugal que contre l'Espagne.
Et pour le coup, si tu regardes la fin de match, enfin les 15-20 dernières minutes, les joueurs qui rentrent côté marocain, c'est des joueurs qui sont pas à la base dans le synopsis de la rencontre, avec beaucoup de blessés, beaucoup d'absents.
Donc le Portugal a pas mal de déceptions à effacer quand même.
Non, mais on en revient sur des joueurs qui jouent avec le cœur et des joueurs qui jouent avec la peur. On pourrait bien.
T'es d'accord avec moi au final?
Oui, je suis d'accord avec toi au final.
Mais je sais pas, qu'est-ce qui te permet, comment tu évalues le fait qu'il soit faible psychologiquement, qu'il joue avec la peur, ça serait quoi l'histoire de ça en fait?
La moyenne d'âge des joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui, elle était super basse.
Moi je maintiens mon explication qui ne plaît pas aux Portugais globalement.
Je l'écoute.
C'est Cristiano Ronaldo.
Un peu moins sur cette phase de poule.
Non, mais pour moi, s'il doit y avoir un problème psychologique, c'est lui qui a annihilé la prise d'initiative de tout le monde. Ses colères répétées ce soir, son cinéma.
Je suis d'accord avec toi.
2016 a été son apogée, même en équipe nationale, quand il ne jouait pas, comme à la finale où il sort au bout d'un quart d'heure, sa présence transcendait la fameuse équipe que Walid a appelée Tonton, mais de mecs un peu costaud, qui était là depuis longtemps, qui avait un peu morflé ce titre que tout le pays attendait, la récompense suprême. Il était incontestablement le leader. Il avait vécu depuis 2004 pas mal de déceptions où le Portugal méritait à chaque fois mieux. Voilà. Derrière, quand il a commencé à passer de l'autre côté de la montagne, Pour moi, il handicape le développement des autres.
En tout cas, dans le jeu. Bah, non, mais moi, après, moi, j'étais complètement d'accord avec toi en 2022 et je pensais qu'il allait arrêter. Mais sur la phase de poule, je le trouve très altruiste. Je le trouve plutôt en jambes par rapport à il a 39 ans, hein, mais par rapport à ce qu'il faisait en 2022. Le seul.
Je sais pas si psychologiquement il aide les autres ou il handicape.
Je sais pas. Après il va falloir qu'à un moment donné
Ta personnalité elle est écrasante.
Après à un moment donné les Bernardo Silva, les Bruno Fernandes, il va falloir qu'ils s'imposent ces mecs-là. Hein. Quand tu vois le bilan de Bernardo Silva au Portugal.
Mais Walid, je crois que tu mesures pas ce que c'est au Portugal, Cristiano Ronaldo. C'est l'équivalent d'une sorte de dieu.
Non, je suis d'accord.
C'est compliqué. Nous, on est là, on est en France. Ronaldo, il nous a fait kiffer. Real, c'est un joueur fabuleux, un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Au Portugal, c'est encore. Enfin, sa personnalité, quand t'es à côté de lui, pour les joueurs, c'est un vrai
Par
souci.
Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que.
Bon. Messi a surpassé ça pour transcender toute l'équipe en 2002.
Oui.
Voilà.
En 2002, qui ?
À la Coupe du Monde. Oui. Voilà. Ronaldo, il a eu du mal à le faire avec les jeunes là, avec les gars qui l'entourent et qui le voient comme un dieu.
Moi je trouve que c'est un peu mieux, c'est mieux sur la phase de poule. Maintenant là où je suis d'accord avec toi, c'est que déjà j'étais surpris moi qu'il joue ce soir, parce que je pensais qu'il allait vraiment se reposer pour les huitièmes de finale. Et bon, tu me dis que comment s'appelle l'auditeur ? J'ai oublié son nom.
Vincent,
tu me dis que c'est uniquement il est frustré parce que il a fait un mauvais match, parce qu'il perd. Moi je suis désolé. Son cinéma, comme vient de le dire Daniel, il n'a pas à le faire à la fin. C'est-à-dire que Ramos, il n'a pas eu une minute sur les deux premiers matchs. Ronaldo a joué tout. Il peut sortir quand même qu'à 15 minutes de la fin. Et
en serrant la main. Tu veux quand t'es un attaquant
dans le jeu, je le trouve poids. Je trouve pas. Valide. Je mets une nuance là-dessus. Mais par contre, là, tu peux pas faire ça.
Comment veux-tu quand t'es dans une équipe, sur le banc, dans un groupe, enfin, t'es sur le terrain, ce gars-là, il pose le regard sur toi, il te coupe les pattes. Ramos, c'est impossible. Quand il prend la place du gars, le ballon va lui brûler les pieds. Bon. C'est violent psychologiquement.
Vous pouvez me dire,
ils ont qu'à être forts, ils sont trop faibles, ils sont ceci, ils sont cela.
Non, vous moi, je nuance ça le jeu.
Mais moi, mon constat, et c'est pas de nouveau, je le dis depuis pas mal de temps, cette équipe du Portugal a des joueurs extraordinaire, vraiment, je à tous les postes sur le banc, c'est magnifique, mais j'ai de gros doutes qu'ils aillent au bout alors qu'ils ont tout pour aller au bout.
Merci Vincent, 32-16.
Ma théorie.
Dans un instant, un mot de la Turquie et ensuite la Belgique, futur adversaire de la France. On va analyser tout ça jusqu'à minuit et puis l'équipe de France, pas mal d'infos ce soir. Les problèmes commencent à arriver en équipe de France concernant les remplaçants,
les
entraînements, etc. Jusqu'à minuit, on est là, jusqu'à minuit et demi, on est là dans l'after pour analyser tout ça. Le 32-16 est ouvert. À tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, l'afterfoot, intégral Euro.
Gilbert Bribois.
23h36, Daniel Riolo et là, Walid Acherchour également. Info supplémentaire sur Martigues, parce que là, sur Direct Studio, on
voit. C'est vrai ou pas? Non, moi j'ai vu BFM Marseille.
Alors en fait, j'ai par exemple Anthony qui m'écrit et qui me dit effectivement Martigues, Vélodrome jusqu'en décembre.
D'accord.
Et avec uniquement la tribune Ganet ouverte.
Ok.
Mais pour la pelouse, c'est un sacré truc. Hein.
Ouais. La tribune Ganet, ça va faire un peu creux, je trouve. Vélodrome, on a l'habitude de Vélodrome en folie, plein et tout.
Bah, sinon, Martigues, ils n'ont personne. Donc,
Oui.
Je sais même pas si on la remplir.
Moi, j'avais assisté à un match de Coupe de France Martigues PSG au célèbre stade Francis Turquan.
C'est vieux,
il y a quelques années, ouais.
Quoi, avec Ben Arbia à Martigues?
Ça doit. Non, il était plus là. Non, ça doit faire début des années 2000.
Oui, d'accord, ok, ouais.
C'était l'équipe.
Je crois qu'il y a Jérôme encore.
Ouais, possible.
Jérôme joue au PSG.
Possible.
Un match un peu grêlon, mais je crois que le PSG a dû s'en sortir.
Ah, c'est pas un match grêlon, c'est un match pavé. Parce qu'à la fin, il y avait des supporters de Martigues qui avaient balancé des pavés dans le quart des supporters parisiens. Bon, voilà. Efe est là, notre ami d'Actu Foot qui suit le foot turc de près. Salut Efe.
Bonsoir à tous, comment allez-vous?
Ça va et toi?
Bien. Super Efe.
Bienvenue avec sa baguette.
Super, les émotions là qui redescendent, c'est ouf. Sacré match.
Bon, ça va mieux non? Parce qu'après le deuxième match, les supporters turcs étaient plutôt en colère.
Alors, ouais, en effet, l'effectif a été d'ailleurs remanié par rapport à ça.
Heureusement.
Il y a eu des bonnes surprises comme des mauvaises. Je pense que Hakan, par exemple, n'a pas été vraiment bien placé en tant que 10, alors que le retour d'Ismaël Duxec, ouais, j'ai trouvé Hakan assez moyen sur le match. Mais gros match de Baruch Harper en pointe, de Ferdé en latéral, et pareil, Ismaël Duxec qui revient d'une grosse blessure, vraiment ils m'ont plutôt plu.
Ils m'ont fait un petit peu peur hein, partout, hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais à 11 contre 10, t'as la République tchèque qui peut, parce qu'avec un but de la République tchèque, t'étais éliminé, hein.
Exactement, ouais. Une défaite, surtout que la Géorgie menait 2-0, ouais. Donc ouais, n'importe quel but tchèque pouvait nous éliminer. La défense, bah on les connaissait, hein, sa lacune défensive, on n'a pas réussi à les corriger, ça sera pas corrigeable d'ici la fin de l'Euro. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'est fait peur. Maintenant, le principal c'est la qualif, donc on est content.
J'ai retrouvé Cenk Tosun.
Le fait d'être en 8e, c'est déjà une performance. Comment ça va être analysé là-bas, comme une sorte d'aboutissement, ou on se dit qu'il y a matière à viser plus haut?
Alors après les deux désillusions en 2016 et en 2021, pour nous c'est quand même une bonne perf d'arriver en 8e. Maintenant, j'imagine que au vu de notre parcours qui n'est pas le plus difficile par rapport évidemment à l'adversité des autres carrés, je me dis que le peuple turc attend un peu plus. Ouais, exactement. Bah on se dit évidemment l'Autriche ça joue, hein, ça joue très très bien. C'est on l'a vu contre la France notamment, c'est assez solide. Donc je dirais pas que c'est un tirage facile, mais c'est déjà mieux que de tomber justement contre la France.
C'est un tirage abordable. De toute façon,
abordable.
Enfin, attendez, l'Autriche sera favori.
Excusez-moi, les gars. L'Autriche est favori, bien évidemment.
Oui.
Mais à la 90e minute, en fait, c'était soit l'Espagne, soit l'Autriche. Tu prends qui, toi?
L'Autriche.
Ah, d'accord, ok. Donc,
si le choix est là, oui.
Donc, derrière l'Autriche, si tu bats l'Autriche, c'est quand même la Roumanie ou les Pays-Bas.
Oui.
Donc, exactement. Tu te dis, par rapport à tous les quarts de tableau, je te dis pas que la Turquie va aller en demi et va passer l'Autriche.
Tu peux aller faire Coupe du Monde 2002.
Si on doit analyser.
C'est surtout là que tu dis que la France, quand même.
Ah oui, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout, surtout que si on regarde bien sur les dernières.
La Turquie que j'ai vue ce soir, c'était pas un boulevard pour la France.
Oui.
Bon, en tout cas, il y avait.
Vu la France qu'on a vu hier, il y a plus de boulevard.
C'est une équipe imparfaite.
C'était le périph, mais à 18h.
Mais quand on connaît l'histoire de la Turquie,
de trois emmerdements sur la route.
Dans les grosses compétitions, de toute façon, c'est soit demi, soit c'est une catastrophe à chaque fois. Donc là, t'es en 8e avec un quart de tableau assez intéressant. Pourquoi pas? En plus, avec le gros contingent que tu as en Allemagne de supporters, où en fait t'es à domicile, quoi. Il peut se passer un truc, hein.
C'est vrai, la diaspora elle est présente, mais encore une fois, pour moi, faut pas non plus partir très optimiste. Enfin, c'est l'Autriche, quoi. Ils ont fait quand même.
Ah non, l'Autriche est favori de ce 8e là. Et Daniel le disait, moi je vois l'Autriche aller en demi. Donc, mais tu peux pas partir battu contre l'Autriche. Tu dois jouer ton match à fond.
Non, évidemment, il faut montrer du caractère. Après, là, on a beaucoup de suspensions. L'arbitre, je pense, vous avez vu le match, il a sorti beaucoup, beaucoup de cartons. Donc, je sais pas comment est-ce que Montella va remanier encore une fois l'effectif, mais ça va être intéressant à voir.
Il avait été beaucoup critiqué durant la phase de poule, après le deuxième match, Montella.
Ouais, en fait, il y avait une petite polémique en Turquie par rapport à Arda Güler, justement, à l'entraînement.
Ouais,
il avait été aperçu à l'écart, tout ça. Donc, en Turquie, on aime bien créer des polémiques un petit peu pour rien. Et je trouve que c'est un peu bête, on se tire une balle dans le pied bêtement. Alors que, franchement, pour le coup, Arda Güler est derrière Montella et c'était juste une petite blessure, donc il n'y avait rien de grave. Mais il avait été pas mal critiqué après le match contre le Portugal parce que l'effectif qu'il avait sorti, c'était pas vraiment ce qui était attendu. Mais là, en l'occurrence, il s'est bien rattrapé contre la Tchéquie. Donc,
il s'est sabordé, sur le deuxième match. Bon, là, ça lui donne raison parce que il y en a qui diront qu'il a préservé pas mal de joueurs pour jouer cette finale contre la République tchèque. Mais c'est vrai que quand il te dit en début de rencontre, avant la rencontre, Güler, on prend aucun risque pour le troisième match et qu'il le fait rentrer à la 110e à 3-0, tu comprends pas trop la logique, hein.
Oui, évidemment. Après, là, en l'occurrence, je trouve qu'il a fait un match assez moyen, Arda, donc il a bien fait de sortir à l'heure de jeu.
Ouais,
il a pas été fameux, donc je pense qu'il fait bien de le préserver pour l'Autriche.
Bah, il faut, à force de le préserver, si le gars est pas bon, ça sert à rien de le préserver. Hein.
Bon, Effet, merci. Je renvoie à Actu Foot, hein, où tu t'occupes du foot turc, pour suivre l'actu sur place. Salut Effet, à bientôt.
Salut Effet.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Bonne soirée. Avant la Belgique, un mot de la Roumanie, parce que c'est une équipe surprise.
Il était chez lui, Effet. Il était à son logis.
Ça fait 5 minutes qu'il a préparé ça.
Ouais. Il entend une autre ou pas?
J'ai tenté la baguette tout à l'heure, vous n'avez pas marché.
Si, j'ai vu, on a entendu la baguette.
Je fais ce que je peux, hein, on se débrouille. Ouais.
Romain est avec nous.
Je pense qu'il a des papillons.
Salut Romain.
Salut Gilbert. Salut Daniel, salut Walid.
Romain, toi tu suis la Roumanie?
Ouais, à fond.
Et là, c'est
fond.
Le retour de la Roumanie, premier groupe. Ouais. C'est un truc de fou, quoi.
C'est un truc de dingue.
C'était pas le groupe en bois de 7 euros?
Un groupe, c'est le groupe C, c'est le groupe d'hier, là. Danemark, Angleterre, Slovénie.
Oui, ouais. D'accord, mais pas sur le papier. Là, celui-là, c'est vraiment le groupe où tout le monde était à 3 points avant la dernière journée. T'as eu que des matchs nuls.
Bah, déjà, les gars, si le groupe est en bois, c'est surtout à cause de la Belgique, hein, parce que c'est eux qu'on attend.
C'est la Belgique qu'on attendait en tête, et là, t'as Roumanie en tête du groupe.
Et en fait, la Roumanie, c'est un pays. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est trop bien l'Euro 24 pour ces petits pays-là, quoi. En France, on ne sait pas ce que c'est, on ne réalise pas, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Moi, ça fait 25 ans que j'en chie à regarder cette équipe, même pas passer les groupes de qualifs, à finir 3e, 4e, 5e derrière des pays de merde. Et là, ça y est, on arrive à passer, à être qualifié en phase de poule, et on finit premier, on est qualifié. Mais j'ai regardé le match tout à l'heure avec mon gamin, mais j'étais pétrifié, en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller le bébé. Mais les gars, mais c'est complètement ouf de passer, quoi. Et là, on va jouer les Pays-Bas en 8e, mais on peut tuer les Pays-Bas. Ça, vu la qualité de jeu des Hollandais, il y a carrément moyen. Et c'est trop beau pour des pays.
Non, mais moi, je suis convaincu maintenant. Quand j'entends les belles histoires comme ça, moi, ça, quand j'ai vu la Géorgie ce soir, vous faites premier. Ok,
oui, mais attends, en Géorgie, t'as quand même un mec, Kvaratskhelia.
Qui est un joueur en Europe qui vaut
en Roumanie,
100 millions.
Il n'y a pas un Kvaratskhelia en Roumanie.
Miko Tadze, est un joueur qui peut jouer dans n'importe quel grand club. Mais en Roumanie, il n'y a pas.
Vous allez entendre parler, hein, normalement, dans les années à venir. Dragoušin derrière.
Dragoušin qui joue à Tottenham, ouais.
Voilà, Denisman qui est à Parme, qui est franchement pas mal.
Tiens, cadeau de l'after. Cadeau de l'after, 20 secondes de Kvaratskhelia en Géorgie en direct. On y va.
Je vais faire la trad.
Ah ben non, là il y a la trad, c'est pas drôle.
Kvaratskhelia, c'est totalement Romain Canici.
Dans 20 secondes, il revient. Romain, t'es d'origine roumaine ?
Oui, absolument. Je suis né là-bas, comme je l'ai raconté dans un super bouquin que j'ai écrit il y a 2 ans et où je t'ai interviewé, Gilbert.
Ah, ça y est ! Et t'es de d'où ?
De Bucarest. Franchement, c'était obligé. Là, il fallait parler de la Roumanie. Là, c'est trop beau, c'est notre jour de gloire, hein, les gars.
Tiens, Kvaratskhelia en géorgien.
Comment vous êtes senti dans ce match? C'est une énorme performance. J'imagine que c'est un des plus grands moments dans votre carrière.
Tu parles de Georges?
Et pourtant, les Portugais étaient favoris, hein, avant le début de cette rencontre. Écoutez, oui, évidemment, les Portugais étaient favoris. Mais au début de la rencontre, Cristiano Ronaldo est venu me voir et je lui ai fait: oh caray, on va vous battre ce soir. Il m'a pas cru. Pourtant, vous avez vu comme moi, hein, on a joué bas en contre et on les a bien fourrés. Hein.
Voilà. Merci Daniel pour cette traduction, vraiment très fidèle. Romain,
ça colle en termes de timing en tout cas.
Ouais, c'est
le timing. C'est vachement bien.
On attend la conf des Roumains maintenant.
Roumain, je parle mieux que géorgien.
Ah ben, Roumain, c'est proche de l'italien.
Je suis spécialiste en pays de l'Est.
Roumain, c'est langue latine, très belle langue le roumain.
Je maîtrise aussi.
Exactement. Ah, mais moi, j'ai bien flippé que ce soit France-Roumanie en 8e, en tout cas.
Ah non, moi, j'aurais adoré.
Pas moi. Ça aurait été terrible. J'aurais passé 3 jours à.
Mais ce qui est fou dans cette poule, c'est
que j'ai vu l'équipe de France, donc.
On l'a pas encore dit, mais bon, c'est les 4 équipes à 4 points, donc. L'Ukraine à 4 points termine dernière, alors que le Danemark à 3 points est deuxième de la poule C.
L'Ukraine se fait sortir sur le premier.
Le 3-0, ça fait très très mal, ouais.
Romain, moi j'ai un grand-père qui est né à côté de Timișoara. Est-ce que je peux être assimilé?
Absolument, on prend tout, hein. Ils prennent les Yougos, les Hongrois, les Moldaves, c'est bon, hein.
C'est la grande famille roumaine. Très bien.
Exactement.
Cite nous juste un joueur là que t'aimes bien, qui à ton avis peut devenir un gars qui peut jouer dans le chapeau 1 en Europe.
Ah, chapeau 1, et un bon chapeau, un haut de chapeau 2, Denisman dans 5 ans. Denisman. Il joue à Parme, il monte là.
Ah, le petit ailier, hein.
Ouais, le petit ailier droit.
Et le fils du Maradona des Carpates, alors, ouais, comment
bah, le problème, c'est qu'ils sont en concurrence, les deux. Il est pas mal, le fils Hadji, mais il manque un peu de constance. Quoi.
Il fait il sera pas au niveau cool, du daron. Après,
Là, c'est plus le Rotten des Carpates, le fils.
C'est pas pareil. Ouais, c'est plus l'Olivier Quint des Carpates.
Ah, c'est plus le Walter Birsa des Carpates. Ouais.
Merci, Romain. Bah, on se rappelle pour les huitièmes.
Les gars. Ouais, bah, carrément.
Salut, Romain. Bonne soirée. Dans un instant, la Belgique et ensuite l'équipe de France. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
23h50, Daniel Riolo est là, Walid Acharchour est là, les gars, on accueille Guillaume Gauthier, journaliste belge qui est responsable des pages foot au VIF, journal de référence en Belgique. Ah. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Salut Guillaume.
Bon, on va pas être potes pendant quelques jours là, entre Français et Belges.
C'est une vieille histoire.
On a l'habitude.
On a l'habitude. Bah, vous avez une revanche à prendre, les gars.
C'est
grosse affiche. Hein.
Est-ce que c'est le bon moment pour la prendre? Est-ce que les joueurs belges en ont envie? Quand je les vois sur le terrain, je me demande leur degré d'envie à jouer au foot ensemble. Je ne sais pas. J'ai un doute.
Guillaume, tu as une idée?
Ben, je pense que il y a beaucoup de pression en fait dans cette équipe. Je crois qu'ils se sont mis beaucoup de pression tout seuls parce qu'on a pas mal de leaders de la nouvelle génération, on va dire, qui ont affirmé haut et fort qu'ils allaient se hisser sans trop de problèmes à la hauteur de ce qui avait été fait par la génération précédente. Et je pense que ils ont peut-être pas mesuré.
Mais qui sont les joueurs dont tu parles? À quoi tu fais allusion?
Bah, je pense, on a eu beaucoup de discours de joueurs, des Amadou Onana, on avait Leandro Trossard qui, à la dernière Coupe du Monde, c'était plein, plus ou moins ouvertement, de pas recevoir sa chance alors
qu'il a pas l'air facile, lui, entre lui et son daron, c'était des c'est compliqué. Hein.
Ouais, donc c'est. Enfin, ces joueurs-là, je pense qu'ils se sont mis une forme de pression. Je crois qu'il y a un sélectionneur qui est malgré tout un jeune coach et qui découvre un peu cette situation-là d'avoir des matchs avec tout un pays derrière à élimination directe. Par exemple, les joueurs et le sélectionneur ont été très surpris que tout le public belge a sifflé à la fin du match. Parce que eux, ils ont dit, bah, on s'est qualifié.
Ouais. On est accueillis par des sifflets après le match.
Ouais, c'est ça. En fait, les joueurs allaient se diriger vers les supporters pour saluer le public. Mmh. Et le public a sifflé parce qu'ils n'étaient pas contents de la prestation et notamment du fait qu'on a un peu joué la montre pour sauver le 0-0 contre l'Ukraine, en gros, en fin de match. Et donc, les supporters ont sifflé. Et donc, De Bruyne a dit à toute l'équipe de faire demi-tour. Et
j'ai
de
pas compris
pas aller
la réaction de De Bruyne, moi.
Bah, je pense que lui, dans son idée, c'est ouais, on est qualifié, c'est quoi leur problème, quoi.
Ils n'ont rien à dire.
Il n'y a pas un problème physique avec De Bruyne. Rappelez-vous de l'action où Carrasco part ballon au pied, ils sont 3 contre 2. Ouais. T'as Lukaku à gauche, De Bruyne à droite. En fait,
non,
De Bruyne.
Il n'y a pas Lukaku.
Non, il y avait
Lukaku avec sa caravane.
Ah, peut-être.
Ils étaient deux.
Mais De Bruyne aussi avec sa caravane. Parce que Carrasco avec le ballon, il va plus vite que De Bruyne. Et il attend que l'autre arrive pour lui donner. Bon, après, et il n'arrive jamais, en fait, De Bruyne.
Il lui donne mal, Carrasco.
Mais moi, le problème, c'est De Bruyne dans cette course.
Pour le coup.
Moi, j'ai l'impression qu'il est cramé.
Oui,
il a pas été dingo. Hein.
C'est plus le même joueur, mais je trouve que, en termes d'envie, parce que Daniel parlait d'envie, je trouve qu'avec Onana, ça a été l'un des meilleurs, enfin, les moins mauvais sur la rencontre. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé avec Guillaume, la semaine dernière, dans l'émission avec Pierre Dorian, là. J'avais été emballé par ce qu'avait fait la Belgique contre la Roumanie, où j'avais trouvé que c'était plutôt intéressant avec les changements de Tedesco. Autant aujourd'hui, mais c'est très très décevant, surtout qu'on a fait le bracket final avec Daniel et Gilbert tout à l'heure. Il y avait une opportunité d'aller se mettre dans la bonne partie de tableau pour aller faire un très très bon tournoi pour cette nouvelle génération et pour faire pour essayer de
et t'as joué le nul à la fin contre l'Ukraine
et tu joues le nul et la première mi-temps elle est très très mauvaise et tu te crées pas beaucoup de situations par rapport à ce que tu as fait contre la Roumanie et t'es pas à la merci d'une élimination parce que il y a un moment donné il y a un rush ukrainien qui va à pleine vitesse dans la surface de réparation. T'as un sauvetage d'un défenseur belge. Tu te fais peur jusqu'à la dernière minute. Et ça, quand même, c'est pas normal quand tu t'appelles la Belgique. Ils se sont dit bon, deuxième place, finalement, c'est pas si mal. Alors que tu savais très très bien que en début de rencontre, avec une victoire, t'avais de grandes chances de terminer premier et de jouer un huitième de finale, voire un quart de finale plus abordable. Là, tu te retrouves, tu vas devoir jouer la France. Si tu passes la France, déjà. Ça va pas être une mince affaire pour te retrouver contre le Portugal, l'Allemagne ou l'Espagne. Attends, mais c'est sincèrement, moi je comprends les supporters belges à la fin du match. Hein.
Gauthier,
Guillaume, tu veux rajouter un truc?
Guillaume, pardon.
Ouais, enfin, moi, je pense vraiment qu'il y a, il y a un problème dans cette équipe qui est que l'essentiel des qualifications s'est joué sur le fait que Lukaku marquait très facilement. Et là, Lukaku ne marque plus, donc l'équipe ne marque plus. Mmh. Parce que le jeu est quand même majoritairement orienté autour de lui, et on sent qu'il est en, un peu en crise de confiance. Le ballon que lui met De Bruyne après 5 minutes en début de match, Lukaku en confiance, il marque toujours, là, il met une vieille frappe toute molle.
Il doit la mettre.
Ouais, il doit toujours marquer. Et on sent déjà qu'à ce moment-là, ouais, on sent qu'en fait, je pense qu'à un moment, ils se disent, bah, ça recommence, on n'arrive pas à marquer, et donc il faut au moins qu'on n'encaisse pas les changements de Tedesco.
C'est un joueur que j'ai adoré pendant des années, et je trouvais qu'il était sous-coté. On le qualifiait trop d'attaquant un peu lourdeau, alors que je n'étais pas d'accord et qu'il avait une belle technique. C'est que s'il n'est pas en forme, justement, il devient pâteau. Le problème, c'est qu'un Lukaku en forme, ça a longtemps été un des meilleurs neufs en Europe, pas en forme, pas en jambes et plus tellement au top niveau maintenant, il se transforme en Darius Vassell, quoi, tu vois, un truc dans ce genre-là. Et c'est un problème.
Il est pas inspiré, mais par exemple, un Loïs Openda, il peut rentrer un peu plus tôt quand même aujourd'hui, ou quand tu vois les différences qu'il a fait sur le premier match contre la Slovaquie notamment, depuis c'est quoi, c'est 3 minutes sur les deux matchs. Moi je suis désolé.
Ouais, tout à fait,
on peut pas l'associer.
Ouais, dans la hiérarchie, c'est,
on peut pas les associer les deux, on peut pas mettre De Bruyne un peu sur le côté sur la fin de match. L'Ukraine, c'est pas, on parle pas du Brésil 70 quoi. Je sais pas, moi même dans les intentions, toujours les mêmes changements là. Carrasco, c'est terminé Carrasco. Faut passer à autre chose, quoi. Je sais pas, moi.
Carrasco, il fait partie des plus dangereux quand même.
Non.
Tiens, Guillaume, écoute Didier Deschamps, parce que il a parlé des armes offensives belges et des joueurs qui font peur, mais j'ai l'impression qu'il était fatigué lui aussi. On écoute.
Et De Bruyne, Lukaku, Djoku, Trossard.
Voilà, donc lui, il a vu De Bruyne et Djoku.
Djoku, c'est le Djoko le belge.
Je crois que tout le monde est fatigué, en fait. Ouais, hein.
Jérémy Djoku.
Jérémy Djoku. Ouais, et De Bruyne. Bon.
Après, tu fais ce huitième de finale contre la France. Là, t'as rien à perdre. Tu peux avoir l'esprit revanchard. Moi, les gros doutes que j'ai, c'est qu'au-delà du collectif, c'est que défensivement derrière, quand tu vois Théâtre, Woodfess, avec ce qu'on a devant nous, normalement ça doit pas faire un pli, mais si t'as un Lukaku qui redevient Lukaku, si au milieu de terrain Tillman et Onana font un gros match, sur un scénario où moi je pense que si j'étais à la place des Belges, je bloquerais les espaces, je jouerais beaucoup plus resserré pour jouer sur la vitesse d'un Doku, d'un Bagayoko ou autre, tu peux sur un scénario de match sortir la France, hein, c'est pas interdit, hein. Même si j'ai du mal à y croire, mais c'est pas interdit.
C'est un scénario de match, comme tu dis.
Oui. Vous dites quoi, 50-50 ?
Non, je vois un 70-30.
Non, c'est pas 50-50.
65-35 pour les Bleus.
Oui, voilà. Oui.
Parce que les Bleus n'ont pas du tout été rassurants.
Ah oui, ils n'ont pas été rassurants.
Quoi, le problème, c'est que les Belges n'ont pas
l'impression d'être très déterminés.
Quoi. C'est un peu mollasson.
Ah là, s'ils ne sont pas déterminés sur la 8e de finale contre la France, il faut arrêter le football.
Vas-y, Guillaume.
Ouais, comme le dit Walid, il y a un scénario de match qui peut convenir à la Belgique. Le problème, c'est que la Belgique a du mal même à défendre en bloc bas de manière organisée, parce que Onana, il a beaucoup d'énergie, donc c'est un milieu de terrain qui défend bien quand il y a de l'espace à couvrir, mais quand il faut jouer sur du positionnement, c'est beaucoup plus compliqué, ça laisse souvent des brèches. Et par exemple, la Belgique a joué un amical contre l'Angleterre à Wembley en mars, et c'était plus ou moins l'équipe type de la Belgique, pas vraiment l'équipe type de l'Angleterre. Et en bloc bas, la Belgique a énormément souffert en deuxième période, parce que ça allait trop vite dans les espaces. Il y a un scénario où ça peut le faire, mais je pense, enfin, De Bruyne, il avait dit avant le tournoi, et je pense que c'est un bon résumé, la Belgique est pas un des favoris, mais c'est une équipe contre qui personne n'a vraiment envie de tomber. Et je crois que tomber sur la Belgique en huitième de finale, c'est pas un bon tirage. Mais sur ce qu'elle a montré depuis le début du tournoi, c'est pas aussi effrayant que ce qu'on aurait pu imaginer avant.
Le gardien, il fait un bon tournoi, le gardien, je trouve.
Ouais, il fait un très bon tournoi, ouais.
Ouais. Castels, là.
Pourtant, Matzel, c'est au-dessus.
Ça se fait que c'est Matzel qui joue, Gilbert.
Moi, je trouve bien, moi.
Guillaume, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci, Guillaume.
Un de ces quatre, hein. Et donc, on se retrouve
rapidement.
Un de ces quatre.
On va se faire des amis quand il arrive.
Peut-être, voilà. T'es obligé de l'appeler pour lui demander comment il va.
Je renvoie au journal Le Vif de Guillaume. Salut, Guillaume, merci beaucoup.
Oh, les Bleus, ça va gagner.
Tiens, salut, à bientôt.
Écoutez l'anglais de Willy Sagnol, il est en conférence de presse.
Against Turkey, and I feel very proud to be their manager.
Voilà. Il est très fier d'être ici.
Hello, congratulations. My name is Sebastian Stabry from Mediano in Denmark. Can you please say something about the very entertaining football that your team plays?
Voilà, vous nous direz sur le football très enthousiasmant que vous pratiquez.
When you're the small team of the competition,
pas besoin de traduire, c'est facile.
I mean, in brackets,
petite équipe là, il dit.
When you're the small team,
merci,
you know you have nothing to lose, and the only thing we said before the competition is whatever happens, we don't want any regrets after the competition. The regret of maybe not have played our football or maybe not to have enjoyed the competition as much as we should have done. So, you know, it's a you have no weight on your shoulder, and of course, you know, when it's difficult, you know, when you're France, when you're England, when you're Spain, when you're Portugal, because you are under pressure, because people expect you to win. And I understand that's very difficult. But for us, we don't have all these things. The only responsibility we had at the beginning of the competition was to make the Georgian nation proud of their players. And I think we've done it the best way.
Voilà, bravo Willy, bel bravo. Anglais. Je pense que là, il vient de s'offrir 10 ans de belle carrière de sélectionneur, que ce soit en Géorgie ou ailleurs, avec une petite aventure comme celle-là. Bravo Willy. Dans un instant, l'équipe de France, les gars, et puis les droits de télé, Vincent Labrune devant le Sénat, le reste de l'actu du jour également au programme de l'After, encore pendant une petite demi-heure, et ensuite, ce sera la libre antenne.
RMC, jusqu'à minuit 30,
l'After Foot, Intégral Euro.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of our six pools on three different levels for a perfect view of our massive screen. Plenty of seating options from cozy day beds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.